C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis et David Revaud-Allonne de la revue Hémicycle. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Roselyne.
Et vos unes respectives aujourd'hui, David...
Violence et politique, l'incendie sur les agressions contre les élus qui ne cessent d'augmenter, mais aussi la violence entre les personnalités politiques et bien sûr du côté des ultras, ultra-droite, ultra-gauche.
Et là, votre une, Pierre ?
Et nous, c'est intéressé aux écologistes qui sont en plein congrès en ce moment. Il n'y a pas énormément d'enjeux. Quatre petites nuances de vert.
Il y a que vous qui intéresse, c'est ça?
Je vous remercie. Aussi, je pense que vous regardez. Je pense que l'écologie intéresse beaucoup de monde. Donc, c'est intéressant de s'apercevoir.
Mais c'est vous-même qui disiez qu'il y a peu de différences.
Oui, il n'y a pas beaucoup d'enjeux dans ce congrès. Elle s'est imposée chez les écologistes et aussi à gauche, je crois, Marine Tondelier. Et on raconte comment elle va s'imposer encore plus à gauche demain.
D'accord.
Bon. J'espère que vous allez le lire, Roselyne.
Mais oui, bien sûr.
Vous êtes abonnée, Roselyne, n'est-ce pas?
Eh bien, je le reçois, je le lis. D'ailleurs, David aussi.
Absolument. Voilà. Toujours de très bons dossiers.
Je vous remercie. De belles enquêtes. Donc, c'est aujourd'hui que rentre en vigueur la politique des droits de douane voulue par Donald Trump. 20% pour toutes les marchandises provenant de l'Europe, 104% pour la Chine. Pour l'instant, les 27 essaient de se mettre d'accord, mais certains pays vont-ils tenter de faire cavalier seul et de négocier avec le président américain, à l'instar de l'italienne Giorgia Meloni, qui sera reçue la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Est-ce qu'elle y va un peu pour négocier? Et est-ce qu'il peut y avoir cette internationale, comme disait Emmanuel Macron, réactionnaire, c'est-à-dire des faveurs à des pays qui portent les mêmes idées que Donald Trump?
L'internationale réactionnaire, elle existe, ça c'est certain. Elle existe au sein de l'Europe. On l'a vu d'ailleurs sur le dossier ukrainien, où en particulier Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, Premier ministre populiste et illibéral de Hongrie, avait finalement eu une voix dissonante, notamment assez favorable à Poutine. Et c'est vrai que les vannes sont un peu lâchées depuis l'élection de Donald Trump. On remarque un certain nombre de gouvernements, vous citiez Meloni, Orban, il y en a quelques autres, jouent depuis cette affaire des droits de douane en ordre dispersé. Et ça tranche finalement avec, on le voit, la réaction de la Chine. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison, l'Union européenne n'a rien à voir avec la Chine sur le plan du système politique. Mais la Chine a choisi de jouer le rapport de force intense et de répliquer coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. C'est donc la guerre commerciale qui est lancée. L'Europe, elle a choisi une riposte, on va dire, plus graduée, avec une riposte douanière en deux temps, voire plus si affinité, en laissant de côté certains produits américains, de manière à préserver certains produits européens. Je pense notamment aux Français et aux Italiens qui ont voulu préserver les vins et les spiritueux, moteurs de nos exportations, des droits de douane américains.
Pierre, est-ce qu'il faut taper fort, est-ce que l'Europe doit répondre et taper fort ou taper modérément? Et d'ailleurs, quand on entend, hier on recevait avec Frédéric Rivière Manon Aubry de la France Insoumise, qui est députée européenne, et elle dit, dans le fond, il faut faire du protectionnisme solidaire. Est-ce qu'il faut taper, est-ce qu'il faut négocier, ou il faut aussi nous aussi faire du protectionnisme?
Je pense que on est en train de basculer dans un monde différent, et on s'aperçoit que les sociétés capitalistes telles qu'on les a construites ne vont plus, d'abord pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques. Et Donald Trump en a été sans doute il en fait la démonstration. Et je pense que quand Manon Aubry parle de protectionnisme solidaire, c'est que l'idée, c'est pas de vivre en vase clos à travers nos frontières, mais c'est que avant tout, il faut privilégier les industries et les compétences, savoir-faire qui sont inhérents aux pays dans lesquels on parle. En France, en l'occurrence, on a laissé passer des savoir-faire qui étaient franco-français et ils sont partis, on a été concurrencés et du coup, on a abandonné cette industrie-là. Et je pense qu'il est absolument nécessaire de réindustrialiser. Ça a été beaucoup dit par Emmanuel Macron, on attend de voir un peu les effets, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'énergie. Et on a des savoir-faire. Donc il faut savoir réindustrialiser. Mais ça ne veut pas dire se fermer à des échanges commerciaux.
Oui, c'est pas l'autarcie.
Non, et c'est là où il y a un véritable problème. Moi, je ne suis pas économiste, nous ne le sommes pas, nous ne sommes pas spécialistes, mais en revanche, on sait qu'il y a par le passé des choses qui ont été faites qui ne vont pas dans le bon sens. C'est ce qu'est en train de faire Donald Trump. Et je pense que là, il y a au moins une espèce de d'accord entre les économistes. Ce qu'est en train de faire Trump, c'est d'abord et avant tout un problème pour l'économie américaine. Ça va être après ça va avoir un effet dominé sur le reste du monde, aux États, en Europe notamment, parce qu'on est le premier partenaire quand même commercial des États-Unis, et que donc du coup c'est complètement fou de penser que ce qui va être en train d'être mis en place par Trump va durer. C'est impensable. D'ailleurs, je pense, y compris dans sa famille politique, ça risque de poser un très gros problème.
Mais est-ce que dans le fond, tout le monde ne rêve pas de faire comme Donald Trump, en disant bon, lui, il fait du protectionnisme idiot, et nous, on va faire du protectionnisme intelligent. Est-ce que ça va pas donner des idées à quelques-uns?
Protectionnisme idiot ou intelligent, je ne sais pas où se situe la différence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Donald Trump, il est en train de mettre à bas toutes les bases de l'édifice international construit il y a 80 années, il y a 8 décennies, après-guerre et au début de la guerre froide. D'abord, sur le plan géopolitique, le multilatéralisme, les organisations multilatérales, à commencer par l'ONU. Voilà, lui, il fait voler tout ça en éclats et il mise sur le bilatéral, sur une relation de vassalité. Je ne sais pas si vous avez vu cette dernière déclaration. Je reste poli, il a dit que tous les pays concernés par les droits de douane étaient en train, je cite, de les appeler pour renégocier, je cite, de lui embrasser le derrière. Et je reste poli. C'était beaucoup plus cru. Et donc, ça montre bien, finalement, que pour lui, le multilatéralisme géopolitique et économique ne fonctionne plus. C'est de la relation bilatérale, la relation de domination, de vassalité. Ensuite, sur l'économie américaine, c'est intéressant parce que Donald Trump, il a aussi expliqué, je le cite encore, « je sais ce que je fais ». Ça paraît totalement fou, les bourses Davis, les milieux d'affaires américains s'inquiètent, même les républicains, on l'a vu, hein, et personne ne mouffetait depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, personne ne mouffetait, et même les républicains commencent à s'inquiéter, certains sénateurs envisagent de déposer un projet de loi visant à empêcher le président américain d'augmenter les droits de douane. Donc, il y a une vraie question. Donald Trump, il sait qu'il va y avoir un choc économique à court et à moyen terme pour l'économie américaine, mais son pari, c'est que finalement, à plus long terme, les classes moyennes, les classes populaires qui ont été très durement frappées par l'inflation bénéficient finalement de cette muraille, non pas de Chine, mais cette muraille anti-Chine. Enfin, dernier point, les protectionnismes, c'est très intéressant parce qu'en réalité, en France, on n'a pas du tout de tradition protectionniste. Vous avez deux formations qui défendent le protectionnisme économique sur notre échiquier politique, ce sont le Rassemblement National et la France Insoumise. Mais entre les deux, finalement, personne n'est d'accord. Or, précisément, je pense notamment au Rassemblement National, ils sont très embêtés parce qu'ils estimaient que l'élection de Trump venait, vous citiez l'international réactionnaire, faisait souffler un vent nouveau nationaliste sur le monde. Ben là, on voit que le vent nouveau nationaliste, il tourne au vent mauvais, voire à la tempête commerciale et économique. Pour nous, on la prend en retour de bâton.
Pierre, on va parler de Laurent Wauquiez, donc le candidat à la tête des Républicains dans quelques mois.
Il y a quelques correspondances.
Voilà, qui veut faire parler de lui et ses réussites, puisqu'il propose d'envoyer les personnes sous OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire, considérées comme dangereuses, de les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire ultramarin situé au large du Canada où il fait 5 degrés. Donc la proposition a jeté un froid aussi gelé que les températures sur l'archipel. En clair, il veut réinventer l'idée du bagne à Cayenne. Même Marine Le Pen trouve ça grotesque. À quoi il joue, Laurent Wauquiez ?
Il joue à la compétition du plus à droite que moi tu meurs.
Oui, oui.
On est tous tombés des nues, je pense. Quand on a vu cette couve, on se demandait si c'était une vraie couve, si c'était un montage. Je crois même que jusque dans le bureau du ministre de l'Intérieur, on s'est étonné, on s'est posé la question de savoir si c'était une vraie déclaration du concurrent Laurent Wauquiez, même si j'imagine que Bruno Retailleau n'est pas franchement en désaccord avec ça. Mais bon, ça surprend tout le monde, ce type de proposition. À quoi on reconnaît l'extrême droite? Pardon de dire ça, mais souvent on reconnaît l'extrême droite parce qu'elle s'en prend aux mêmes personnes, aux pauvres. Et souvenez-vous les propos de monsieur Wauquiez sur le cancer de la cistana, voilà, on s'en prend aux pauvres. En général, on s'en prend aux femmes. On s'en prend aux personnes handicapées. D'ailleurs, on le voit en ce moment, il y a des attaques de groupes d'extrême droite sur les handicapés, avec des attaques de menaces de mort, d'ailleurs, contre le député Pétavin, qui est le seul député en fauteuil roulant à l'Assemblée nationale. Et puis, on s'en prend aux étrangers. Je ne dis pas qu'il coche toutes les cases, M. Wauquiez, mais il est en train de les cocher toutes. Et là, en ce moment, effectivement, il s'en prend aux personnes étrangères en stigmatisant ce que sont aujourd'hui les OQTF. Parce que, bon, les OQTF, on pourrait avoir ce débat, on l'a souvent là, ce débat, mais ce n'est pas des personnes qui sont des personnes dangereuses. Alors, certes, il précise qu'il veut lui juste envoyer là-bas des personnes dangereuses. Oui. Encore faut-il s'accorder sur ce que sont les personnes dangereuses. Et puis surtout, il stigmatise ce que sont nos Outre-mer. Et j'ai entendu hier soir, il faisait une interview, évidemment, sur la chaîne qui lui est favorable, où il expliquait qu'on avait bien des CRA aujourd'hui à Vincennes, des centres de rétention administrative. Pourquoi on n'en aurait pas à Saint-Pierre et Miquelon? Enfin, sauf que c'est pas tout à fait la même chose d'avoir des personnes qui sont sur nos territoires hexagonales et des personnes qu'on déporte. Parce que c'est quand même ça dont il est question. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va faire des camps de travail? Il va faire des camps de quoi? C'est ça le projet de monsieur. C'est quoi ses références
même,
à monsieur
Wauquiez? Même d'ailleurs, Manuel Valls, qui n'est pas très classé à gauche, a dit on est en train de refaire
une campagne
de Cayenne.
Non mais, alors, on parlait des références. Les références, elles sont un petit peu explicitées par son entourage. C'est une idée qui est en vogue depuis quelques mois, de sous-traiter finalement la gestion de l'immigration illégale à un pays tiers. L'Angleterre avec le Rwanda, l'Italie avec l'Albanie, sauf qu'en réalité, ça n'a jamais fonctionné. Et que là, ce n'est pas un pays tiers, c'est un territoire français, même s'il est en dehors de l'espace Schengen. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, évidemment, Laurent Wauquiez souhaite offrir un aller simple à toutes ces personnes frappées d'OQTF, de manière à ce qu'ils ne puissent pas revenir dans l'espace Schengen. Oui. Mais au-delà de son entourage, évidemment, tout le monde est vent debout, vous le citiez, même le Rassemblement National contre cette proposition, qui ressemble un petit peu, dans le style, hein, à celle du Guantanamo à la française. Vous vous rappelez qu'avait promis Ciotti lors de la primaire à droite en 2021. Et effectivement, Laurent Wauquiez, on se voit qu'il est quand même en difficulté dans la primaire pour la présidence du parti, enfin dans la compétition pour la présidence du Parti
Les
Républicains.
Donc il fait des frappes.
Et donc Bruno Retailleau occupe quand même le devant de la scène, fidèle à la ligne de Nicolas Sarkozy selon laquelle il faut être aux affaires pour peser. Il est ministre de l'Intérieur, il a fait une progression fulgurante dans les sondages. Et donc Monsieur Wauquiez, qui a déjà été président du parti, qui a essuyé une grosse défaite aux européennes, pas les précédentes, mais celles d'avant, est quand même en perdition. Et donc, il tente le tout pour le tout. Ce qui est intéressant, c'est que, petit trait d'humour, Bruno Retailleau, enfin, la campagne de Bruno Retailleau a incité, après la proposition de Laurent Wauquiez, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon à s'inscrire aux Républicains pour avoir une carte et pour pouvoir voter et peser dans le choix, parce qu'évidemment, les habitants de Saint-Pierre et Miquelon, ils ne sont pas très contents de cette proposition, comme l'a dit Mme Girardin, ancienne ministre de l'Outre-mer, qui est originaire de ce territoire. Ils n'ont pas très envie de voir débarquer chez eux tous ces autres QTF.
Et l'argument de Laurent Wauquiez, c'est si vous ne voulez pas rentrer de chez vous, eh ben vous allez vous geler par 5 degrés toute l'année là-bas, et encore toute l'année l'hiver, je ne sais pas comment est l'hiver là-bas, enfin aussi l'hiver.
Entre moins et 30 degrés, moins, voilà. Parce qu'il fait, il pleut et il neige très
Bien. Oui, mais d'amener un critère météorologique, c'est ça où vous allez à l'île du diable. Donc en gros, c'est vrai que c'est... Laurent Wauquiez, en fait, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est plus à droite que moi, tu meurs, mais c'est une façon du noyer qui s'accroche à la bouée médiatique, en quelque sorte, pour faire parler de lui.
Il a fait l'ENA, hein, monsieur Wauquiez, c'est dire si nos élites...
Il a fait Normal Sup et l'agrégation d'histoire également.
C'est dire si ces écoles-là sont quand même pas si... ne permettent pas... Mais il a fait de la politique depuis, et effectivement, il maîtrise les outils de communication pour pouvoir attirer l'attention médiatique sur lui. Effectivement, on ne parle que de ça depuis hier. Je pense qu'il s'est totalement décrédibilisé auprès de son électorat. Il s'est décrédibilisé auprès de son parti, je pense, parce que c'est complètement...
D'abord, est-ce que ça ne peut pas marcher chez certains
Je vois même pas comment ça peut marcher. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Enfin, je pense que tout le monde a bien conscience que, d'abord, un, c'est complètement inhumain en termes de proposition. Deux, je sais même pas comment c'est possible. Sans doute, les conventions internationales des droits humains ne nous autoriseraient pas à le faire. On voit comment, justement, les cours de justice se sont opposés au projet de Mme Meloni quand il s'agissait effectivement de déléguer la question de la gestion des migrations en Italie vers l'Albanie. On est en plein dans la discussion qui est la nôtre depuis quelques semaines sur la remise en cause de l'état de droit, c'est-à-dire qu'il va là-dedans, il rentre là-dedans, il cherche la tronçonneuse, vous savez, la tronçonneuse
à la Milley,
de Milley en Argentine, et il cherche le coup de Trump. C'est cette trumpisation. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez décevant de voir quand même quelqu'un qui dirige une région comme la région Auvergne-Rhône-Alpes peut être amené à proposer des choses aussi bête intellectuellement et stupide humainement, en plus.
C'est aussi une manière d'appuyer sur, là où ça fait mal, sur le bilan de Bruno Retailleau, parce que, on le disait, Bruno Retailleau a prospéré, son action a prospéré à la bourse de l'opinion. En 6 mois, il a percé un petit peu l'écran, même si ce n'est pas encore le cas dans les intentions de vote pour la prochaine présidentielle, où il est grosso modo, environ à 10%. Il n'a pas encore fait le break. Mais en tout cas, on voit que Bruno Retailleau, il a un souci, c'est celui des résultats. C'est celui sur le trafic de drogue, sur la délinquance et sur les OQTF. Et donc, c'est un moyen pour Laurent Wauquiez d'appuyer sur le bouton là où ça fait mal, ouais, et de dire, voilà, vous voyez, mon rival, Bruno Retailleau, est à l'intérieur, mais il est incapable d'appliquer.
Ouais, c'est la course de petits chevaux, quoi.
Voilà, et moi, je fais une proposition radicale. Mais évidemment, c'est pas très sérieux. Après, il faut rester extrêmement prudent, parce que vous savez que les congrès des partis politiques, c'est toujours des sciences un peu, alors... Il faut être un peu kremlinologue du Parti Socialiste ou des Républicains pour savoir, mais vous savez que c'est des enjeux qui sont un peu internes, difficiles à décrypter, c'est en nombre de cartes, le jeu des fédérations, etc. C'est très compliqué, et même les plus grands spécialistes disent qu'en dépit de l'avance sondagière de Bruno Retailleau dans l'opinion publique générale, et en dépit de ces propositions qui ne sont pas très sérieuses, le match est quand même très ouvert et très serré. Donc attention aux, attention aux pronostics, on verra ça dans quelques semaines.
Pierre, vous parliez de Trumpisation. Est-ce que le meeting de Marine Le Pen dimanche, ou qui a fait un peu un flop, enfin totalement un flop d'ailleurs, est-ce que d'accuser publiquement la justice, c'était une décision politique, c'est une forme de Trumpisation, vous?
On publie aujourd'hui une très belle tribune que je vous invite à lire de Christiane Taubira qui revient justement sur les remises en question, les remises en cause de l'état de droit et en l'occurrence les cibles qui sont maintenant mises sur le dos des juges, des magistrats. Et je pense qu'effectivement ce meeting qui a changé de ton un peu quand on a vu qu'on reprochait à Marine Le Pen d'organiser un rassemblement contre la justice, c'était pas franchement républicain et c'était pas franchement plaider pour la cause de l'état de droit. Donc je pense que c'est une pierre de plus dans cette étape des remises en cause de l'état de droit. J'ai dit ici souvent cette phrase de Bertrand Badie qui est le géopolitiste qui dit qu'on est passé de la force du droit au droit de la force. Et on est dans cette voie-là et Marine Le Pen y participe, c'est-à-dire que remettre en cause une décision de justice, on a le droit de critiquer nos décisions de justice, mais mobiliser... Vous avez déjà vu Marine Le Pen manifester pour l'intérêt général, pour le droit des travailleurs, par exemple? Non, là, elle mobilise pour les leurs. Pour l'impunité des leurs, quand même. Ouais. C'est l'impunité des siens et d'elle-même qu'elle mobilise son électorat. C'est quand même surréaliste. Il va y avoir un procès, il va y avoir un appel. Elle a même droit à un traitement de faveur, puisque l'appel va être rapproché dans les délais de la justice. Donc, ça va. On a une justice qui fonctionne correctement, quand même. Et c'est assez irresponsable de sa part de s'en prendre à lui.
Merci, désolé, vous ne pouvez pas répondre, c'est la fin de cette émission. Merci.
Je répondrai la prochaine fois.
La prochaine fois.
On aura l'occasion d'y revenir, je pense.
Merci à tous les deux. À très vite sur France 24.